Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer avec un passage dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus, bien évidemment. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette gloire? Qu'est-ce que c'est qu'on a contemplé? Ou en tout cas que Jean et les apôtres ont contemplé? Qu'est-ce que c'est par exemple quand il est dit dans Luc chapitre 2, que les bergers ont appris finalement la naissance de Jésus. Il est dit « Un ange du Seigneur apparut aux bergers et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Alors, qu'est-ce que vous imaginez quand vous entendez le mot « gloire », quand vous lisez le mot « gloire » dans la Bible ? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous à la fois, mais je peux répondre pour vous si vous voulez, j'ai des propositions. est-ce que vous voyez, par exemple, une lumière? Ça peut être la puissance de Dieu, effectivement. Ça peut être la splendeur de Dieu. Certains, l'immensité de son royaume, quelque chose de, voilà, c'est ça, quelque chose de grand, de fort. Certains pensent des fois aussi à une nuée, peut-être. Ça peut être aussi quelque chose qu'il faut rendre à Dieu. C'est quoi, du coup? Est-ce que c'est de l'admiration, de l'adoration? Oui, plein de choses. Il y en a des tonnes. Certainement. Alors, tout ça, certainement, mais la crainte aussi, pourquoi pas. La question là qu'on peut se poser aussi, c'est de se dire, ok, si c'est quelque chose qui brille, si c'est quelque chose de visuellement fort, si c'est une expérience spirituelle forte, par exemple, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec la croix ? La crucifixion de Jésus. Parce que dans Jean 12, Jésus, il a dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et il parlait vraiment de la croix. Et la croix, ce n'est pas ce qui brille le plus. Hein. C'était un peu glauque, on va dire. Et effectivement, ce n'est pas toujours simple de savoir ce que ça veut dire, ce que la Bible veut dire quand elle parle de gloire. Parce que si c'est pas forcément clair non plus dans nos têtes, ben il y a certaines choses aussi qu'on va pas comprendre. Des versets, par exemple, dans Jean 17, où Jésus dit « Je leur ai donné ma gloire. » Ou plutôt « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est plus juste. « Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. » Ou Paul, par exemple, dans les Romains, Romains 8, qui dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, nous avons été glorifiés, vous avez été glorifiés. Alors effectivement, si on croit que la gloire, c'est ce qui brille, si c'est ce qui c'est se mettre en avant, entre guillemets, c'est un peu notre fierté, voilà, sur le devant de la scène. C'est un peu logique d'avoir un peu de recul, de fuir un peu ça et de se dire « Ouh là là, mais moi, ça me crispe un peu, j'ai pas envie de m'enorgueillir, moi. Hein. Allez, à Dieu toute la gloire, mais pas à moi. » Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse d'avoir été glorifié? Ou est-ce qu'on fait comme si ce verset et tant d'autres n'existaient pas et puis on passe à la suite? Ou alors on se dit, bon, mais c'est peut-être pour plus tard. Mais si c'est pour plus tard, ok, mais tout aussi vrai que on a été appelé, que on a été justifié, on a été glorifié. À moins tout simplement que peut-être notre image, notre conception de ce qu'est la gloire, peut-être un peu erronée, je ne sais pas. Donc, voilà, maintenant que j'ai dit ça, de quoi la Bible parle quand elle parle de la gloire, en fait? Et là, je vais remonter très rapidement sur un peu d'étymologie. Dans le texte grec, la gloire, c'est doxa, D-O-X-A. Et c'est ce mot-là qui a été traduit par gloire dans la Bible, en français. Et le cœur même de la signification de ce mot, c'est un jugement porté sur quelqu'un. C'est la valeur qui est reconnue sur quelqu'un. C'est l'estime, bonne ou mauvaise, qui est attribuée. Étonnant, hein? Pour comprendre, par exemple, vous avez un athlète qui va gagner la course. Et il reçoit toute la gloire. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que tout le monde va porter sur lui un jugement positif. Ça veut dire que tout le monde reconnaît sa valeur. Ça veut dire que tout le monde a une bonne estime de cet athlète parce qu'il a gagné la course. C'est ça, bibliquement. Et pas que bibliquement, d'ailleurs, on a aussi des mots en français hein, qui reprennent cette étymologie. Pour ceux qui ont fait un peu de philo, la doxa, c'est la pensée commune, l'estime commune, le jugement que tout le monde a. Ou un mot que vous utilisez plus fréquemment que doxa, un paradoxe. Le paradoxe, para, c'est comme le parapluie, le parasol, donc c'est ce qui est opposé à ce qui est contre. Donc le paradoxe, c'est ce qui est contre ton premier jugement, contre le jugement global. Tu penses à quelque chose, tu dis, ben oui, c'est sûr, c'est ça. Et puis d'un coup, ah ben non, c'est pas ça. C'est un paradoxe. C'est quelque chose donc que vous connaissiez. Et du coup, ça donne quoi dans la Bible? Si on se dit, voilà ce que c'est. Par exemple, dans Jean 7, Jésus est à la fête des tabernacles. Et puis, comme d'habitude, les Juifs sont pas trop contents de ce qu'il dit. Et Jésus, il leur dit, Jean 7, 18, « Celui qui parle pour lui-même cherche sa propre doxa, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la doxa de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. » Du coup, c'est très simple. Quand Jésus dit, finalement, celui qui parle pour lui-même, celui qui parle en son propre nom, il cherche à capter la reconnaissance. Il cherche à être bien estimé par les autres. Il parle pour lui-même. Mais celui qui cherche à valoriser celui qui l'a envoyé, et c'était ce que Jésus cherchait à faire, valoriser Dieu au regard des autres, celui-là, il parle en vérité. Son discours n'est pas biaisé, puisqu'il ne parle pas pour se mettre en valeur lui, il parle pour mettre en valeur celui qui l'a envoyé. Et puis c'est même encore plus large. Quand Moïse, par exemple, va s'adresser directement à Dieu dans Exode 33, et qui lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Alors je sais que c'était écrit en hébreu, mais dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est bien ce mot « doxa » qui est utilisé aussi dans la Septante. Quand Moïse dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », il ne s'attend pas forcément à voir une nuée, à voir de la lumière. En fait, il lui dit « Fais-moi voir qui tu es vraiment. Montre-moi ta valeur. Montre-moi ta grandeur. Montre-moi ton caractère. » Et Dieu lui répond, ça, je trouve ça magnifique, je peux pas m'empêcher de le dire, hein, mais Dieu lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Comme si Dieu lui disait, tu veux savoir qui je suis vraiment? Ce qui me définit réellement? Regarde ma bonté. Je fais grâce librement. Je fais miséricorde à qui je veux. C'est ça, ma personne. Et du coup, si la gloire, c'est un jugement juste, si la gloire, c'est une valeur reconnue, mais on pourrait se poser la question, du coup, alors c'est quoi ma valeur devant Dieu? Peut-être qu'on pourrait même des fois se sentir un peu mal, se dire, ben, c'est comme si Dieu, quelque part, nous disait, je vois bien ce que tu fais. Je te surveille, je sais que tu peux faire mieux. Et c'est comme on pourrait se mettre dans une situation où effectivement notre place dépendait un peu de notre performance. Comme si on avait constamment quelque chose à prouver, mais la doxa, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est pas trop notre propre jugement. On peut avoir, chacun de nous, on a un propre jugement sur soi-même. Mais si ce jugement-là, il n'est pas renouvelé par Dieu, si il n'est pas inspiré de Dieu, en réalité, il a peu de poids. Notre regard, il ne peut être une bonne doxa que si ça vient de Dieu et pas de nous. Et Paul en particulier l'avait compris. Et dans Éphésiens au premier chapitre, il a fait, si vous en rappelez, une longue prière pour chacun de nous. On appelle ça la prière universelle de Paul. Et il dit à partir du verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que... » Donc, là, il explique pourquoi il prie pour les gens de l'époque, mais quelque part, je pense que ces prières restent encore actives aujourd'hui. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire... » Le Père de gloire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, le Père de gloire? Le Père, c'est à comprendre dans le sens, c'est le géniteur. C'est celui qui est à l'origine d'eux. En fait, toute reconnaissance véritable, tout jugement juste ne vient que de Dieu. C'est lui qui est la source de toute bonne estimation sur quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Il est le Père de gloire. Et Dieu veut nous apprendre aussi à savoir juger les choses avec son regard. Pour ça, il faut que nos yeux soient éclairés. Il faut qu'on arrive à voir avec ses yeux à lui. Et il se trouve que c'est exactement ce que Paul va prier dans cette prière-là, pour que nos yeux soient ouverts. Il dit à partir du verset 16, « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel » et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et c'est très puissant. C'est très très puissant. Paul est en train de prier pour qu'on comprenne l'immense valeur que Dieu reconnaît à l'héritage qu'il possède dans les saints. Dans nous-mêmes. Les saints, c'est vous et nous. Et donc, Paul prie pour qu'on comprenne à quel point nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut l'aide de Dieu pour qu'on réalise ça. Il faut que nos yeux s'éclairent là-dessus. Dans Jean 17, lorsque Jésus va prier, donc c'est la prière sacerdotale, la veille de sa crucifixion, dans Jean 17, Jésus dit au verset 4, « Je t'ai glorifié, » il parle à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Vous voyez que si la gloire s'était liée à une certaine fierté, ce serait quand même osé de prier Dieu et de dire « Glorifie-moi ». En fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que dit concrètement Jésus dans cette prière-là? Il dit « J'ai rendu visible sur la terre qui tu es vraiment. » Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai rendu visible sur la terre qui tu es vraiment, pour que les gens aient sur toi un jugement juste. Je t'ai fait connaître tel que tu es vraiment en accomplissant pleinement tout ce que tu m'as confié. Et maintenant, à toi Père, maintenant, rends manifeste devant tous la reconnaissance que j'avais auprès de toi avant même la création. L'estime que tu avais auprès de moi, il faut que ce soit visible par tous maintenant. La valeur que tu as toujours eue pour moi, je veux qu'elle soit pleinement manifestée. Ça va jusque-là? Maintenant, la partie merveilleuse. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière dont tu m'as reconnu comme ton fils, je l'ai enseigné à mes disciples. Je leur ai fait comprendre que lorsque tu es apparu des cieux, au moment du baptême par exemple, ou à la transfiguration, lorsque tu es apparu des cieux pour proclamer aux oreilles de tous, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Bien Jésus dit, « Tout ce que j'ai reçu à ce moment-là, tout ce qui fait de moi qui je suis, je leur ai transmis pour qu'ils sachent, eux aussi, qu'ils sont ton Fils bien-aimé, ta fille bien-aimée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Moi, je trouve ça extraordinaire. Verset 23, « Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Exactement ça. C'est ça la gloire qu'on a reçue. Tout ce que le Père associe à Jésus, être un fils bien-aimé, légitime, désiré, aimé, il l'associe à chacun de nous. On n'a plus besoin de se fabriquer notre propre identité. On la reçoit de celui de qui provient tout jugement juste. Du Père de gloire, du géniteur du jugement juste. Et c'est la seule et véritable doxa. Voilà pourquoi Paul peut dire de nous, dans Romains 8, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi rachetés, justifiés, etc. Et il les a glorifiés. C'est pas parce que d'un coup on devient brillant, dans tous les sens du terme. C'est pas parce que d'un coup on a des groupies ou des fans, des followers, Rien à voir. Ça veut dire que Dieu nous donne part à la reconnaissance qu'il a lui-même accordée à son Fils. Si tu es en Christ, Dieu a le même jugement de valeur sur toi qu'il a sur Christ. Ça, c'est glorieux. Tout ce qui est dans le cœur de Dieu pour Jésus, il est aussi pour nous. Parce que nous sommes devenus ses fils et ses filles d'adoption. Donc nous avons été glorifiés. Un petit aparté du coup sur les noces de Cana. Vous connaissez tous l'histoire des noces de Cana, j'espère. Bon, dans le doute, Jésus est invité avec ses disciples et sa maman à un mariage. Et il se trouve que, mince, à un moment donné, il n'y a plus de vin. Et la maman de Jésus lui dit, fais quelque chose. Il dit, bah, je suis pas venu pour ça, moi. Bon, okay. Il fait quand même quelque chose. Il va transformer l'eau en vin. Et ce qui est magnifique, je trouve, dans l'histoire, c'est que celui qui devait s'occuper justement du mariage va voir le marié et lui dit, toi, t'es quand même un sacré bonhomme, quoi. Tu gardes le meilleur vin pour la fin, alors que les gens sont déjà sous. Normalement, quelqu'un qui fait bien les choses, il garde la piquette pour la fin, de toute façon, il s'en rend plus compte. Et il est dit, à la fin de cette petite histoire, qui est le premier miracle de Jésus, d'ailleurs, officiel, enfin officiel, premier miracle de Jésus, il est dit, Jean 2, verset 11, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc, en d'autres termes, Jésus a manifesté, a montré devant tous sa valeur, ce qui compte réellement pour lui. Et ce que j'aime énormément dans cette histoire, c'est que, au-delà du miracle, c'est que, en fait, ni l'époux, ni les invités ne savaient vraiment ce qui était en train de se passer. Les serviteurs ont compris qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre, hein. J'amène de l'eau, je repars avec du vin, bizarre. Mais finalement, tous les gens du mariage, peut-être que certains n'ont jamais su ce qui s'était passé, mais Jésus, lui, savait vraiment ce qui s'était passé. Et Jésus a manifesté sa gloire, entre autres, en sauvant l'honneur du marié. Parce que ça aurait été, à l'époque, un peu une honte pour le marié d'avoir pas prévu assez, que les invités retournent un peu avides, je dirais. Et Jésus a montré sa personnalité, son caractère, qui il est vraiment, sa gloire, en n'exposant pas du tout la honte du marié. Au contraire, il a couvert cette honte. Peut-être que nous-mêmes, peut-être que l'un d'entre nous, ou plusieurs, on vit aussi peut-être parfois avec une honte cachée, un échec, une erreur, un énorme regret. Puis peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi maintenant ? Mais Dieu ne vient pas exposer notre honte. Dieu vient la couvrir. Dieu ne cherche pas à diminuer notre valeur. Il vient pour l'établir sur quelque chose de juste et de vrai, basé sur l'œuvre de son Fils. Alors, si tu as reçu de Jésus la même gloire qu'il a reçue de son Père, si Dieu a pour toi la même estime, le même jugement qu'il a de Jésus, c'est-à-dire, comme dit ce chant qu'on chante des fois, en me regardant, il ne voit plus qui j'étais, mais il voit Jésus. Vous connaissez ce chant, oui? Eh bien, si ce que Jésus nous a donné, c'est cette possibilité de devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, et de recevoir de la part de Dieu la même valeur, le même jugement que Dieu a sur Jésus. Alors pourquoi est-ce que on devrait continuer à vivre en pensant qu'on doit encore mériter quelque chose? Ou en pensant qu'on a quelque chose à prouver à Dieu? Ou même peut-être en pensant que ce qu'on fait n'a pas d'importance aux yeux de Dieu? Non, ça compte pour Dieu. Mais parce que tu es en Christ, tu es aimé, tu es accepté, tu es justifié, tu es adopté, tu es héritier. Et ta valeur devant Dieu, elle n'est pas en construction, elle t'a été donnée, et c'est celle de Jésus. Alors à Dieu toute la gloire, hein. Du coup, vous avez compris que même si on dit, quand on dit gloire à Dieu, en fait, ça veut dire finalement que tout bon jugement soit sur Dieu. Que sa valeur soit reconnue. Parce qu'il est bon, parce qu'il sauve, parce qu'il restaure, parce qu'il délivre, parce qu'il guérit, parce qu'il est merveilleux. Et peut-être que la manière la plus profonde pour nous de lui rendre gloire, c'est de croire qu'il te voit comme son fils, comme sa fille bien-aimée. Je termine en disant que la gloire, c'est donc pas un halo, c'est pas forcément quelque chose qui brille. La gloire, c'est une valeur qui est reconnue et qui est manifeste. Et en Christ, ta valeur, devant Dieu, elle est scellée par son amour. Tu n'es pas en période d'essai, tu es un fils ou une fille bien-aimée, depuis toujours et pour toujours. Amen.
Merci Bruno. Je crois que je peux dire que maintenant on va vivre un moment de gloire à Dieu aussi avec la Sainte Cène, prendre ce temps de partage entre nous. Élevons notre cœur vers le Père Céleste et vers notre Seigneur Jésus-Christ qui siège à sa droite, lui dont le règne n'aura pas de fin. Prions. Oui Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre toutes les grandes portes de ta demeure où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du mal et de la mort, vivre dans la paix parmi les chants de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, que nous puissions chanter ce chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire.
Please. sa gloire, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, le Seigneur du monde, sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, seul le Seigneur.
J'espère que vous avez chanté ce chant avec une nouvelle vision aussi de la gloire de Dieu. Donc je vous invite à tous venir former un cercle, que vous preniez la Sainte Seine ou pas, de vivre ce temps de communion avec nous. À faire un cercle et se retrouver autour de la table du Seigneur. Serrez-vous, qu'on ait le plus de monde possible dans le cercle. En Matthieu 26, versets 26-29, il nous est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à la scène et qui préside ce repas par ton esprit. Avec humilité et reconnaissance, nous prenons le pain que tu nous offres et nous tendons les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous, nous accorder le pardon et nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous le Saint-Esprit, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, si le Seigneur ne fait pas encore partie de nos vies, vous pouvez laisser passer le pain et le vin et qu'on puisse prendre ce temps de communion. Pour l'ordre pratique, le jus de raisin est au bord et le centre est le vin. N'hésitez pas à prier, à entonner un chant. Si vous êtes comme moi, que vous avez du mal à entonner un chant, dites le cantique que vous avez envie de chanter. On a des personnes dans la communauté qui pourront aussi entonner à votre place. Voilà, qu'on puisse vivre ce temps.
Thank you. à celui qui nous aime.
À celui qui nous aime.
Seigneur, merci de nous permettre de profiter de ce temps de carême aussi, de ce chemin pour cheminer avec toi dans cette entrée dans Jérusalem et ce procès, cette crucifixion, cette résurrection. Seigneur, merci de ce que tu as fait pour nous et que nous puissions prendre ce temps encore particulier pour nous approcher toujours un petit peu plus de toi, te connaître un petit peu plus, Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place pour finir ce culte.